Vous écoutez en balado-diffusion le premier volet de la série Dialogue. Imaginez les voies de la réconciliation et les avenues du dialogue social. Présenté par la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes. Cinquième épisode, conférence de David sans chagrin. Les limites du dialogue au sein de la cité.
Bonjour, merci M. Gagnon pour l'invitation. Avec ma présentation, on va changer un petit peu de perspective. On a parlé beaucoup de rapports entre minorité et majorité vu sous l'angle ethnoculturel. Moi, j'aimerais savoir une dimension un peu plus, disons, socio-économique, si on veut. C'est plus les rapports entre les jeunes et le reste de la société. Donc, je vais réfléchir aujourd'hui sur ce qui empêche la société québécoise de former une seule communauté d'égale participation, d'inclusion et de solidarité. Et par là, je ne veux pas dire que c'est une société qui est réconciliée avec elle-même. Je ne veux pas dire que c'est une société qui est sans division sociale. J'avance que notre régime politique contribue à créer et à justifier l'exclusion et l'inégalité, ce qui limite l'égale participation de tous et toutes au débat public. Par dialogue, j'entends des rapports intergroupes dans l'espace public visant à délibérer sur le statut social, la part des ressources et l'accès au pouvoir de chaque groupe. Ce dialogue se déroule constamment, mais on en prend véritablement conscience que dans les moments de crise, où les groupes minoritaires remettent en question leur statut inférieur. S'entame alors une négociation plus explicite sur le partage du pouvoir à l'aide de divers moyens, comme un texte publié dans les médias, une manifestation, etc. Mon objet d'étude est le dialogue opposant les jeunes, le groupe des 18-34 ans et les générations établies, possédant un statut social supérieur, plus de capitaux économiques et les charges dans la cité. La place des jeunes est subordonnée, eux qui ont un statut social inférieur, eux qu'on dit être dépourvus de compétences politiques et qui, conséquemment, votent peu et sont peu présents dans les lieux de pouvoir. Eux qui subissent un taux de chômage plus important, qui font face à un climat constant d'instabilité économique et qui vivent à une époque d'un retrait constant de l'État, donc de désolidarisation et d'accroissement de la sphère privée. Je prends comme cas d'étude le conflit étudiant de 2012 qui a opposé la genèse du mouvement étudiant à l'élite politique au pouvoir. Ce cas illustre bien, en temps de crise, le type de rapports conflictuels qui apparaissent à l'occasion et de manière explicite au sein de l'ordre libéral. Par ordre libéral, j'entends la structure permanente de rapports sociaux qui s'inscrivent dans un horizon idéologique libéral-individualiste qui s'impose à la majorité de la population par la contrainte et par la socialisation. Cet ordre se voit justifié justement par un horizon idéologique qui contribue à nous façonner et qui contribue à naturaliser justement les rapports inégalitaires dans la société. Cet ordre implique aussi une économie capitaliste qui crée constamment de l'exclusion et de la discrimination pour différentes catégories sociales qui sont exploitées, ce qui contribue à réduire les coûts de production et augmenter les profits de l'élite économique. Pour cette réflexion, je vais emprunter le modèle de discours que Guy Laforêt a esquissé pour les rapports entre groupes majoritaires franco-québécois et majoritaires anglo-canadiens. Laforêt commence par nous rappeler l'importance de l'amitié comme forme de partenariat chez Aristote. Le partenariat, c'est un projet commun, selon lui, qui se déroule au sein d'une cité, mais c'est aussi une forme de dialogue. Il nous dit que si l'amitié implique la sensibilité à la situation de l'autre, ça n'implique pas que le social cesse d'être divisé et que les conflits sont évacués. Il dit que, finalement, tout comme Aristote affirme dans les politiques que la cité doit être plurielle et divisée pour exister, Laforêt nous dit que l'élimination des conflits, des tensions, signifierait la fin de la vie politique. Pour qu'il y ait véritablement dialogue, c'est-à-dire un échange permettant au soi et à l'autre de s'influencer réciproquement, et non pas simplement un monologue où le grand impose un consensus apparent au petit, un certain nombre de conditions doivent être présentes. J'ai fait ressortir quatre de ces conditions du texte de Guy Laforêt, et je vais les appliquer à la grève étudiante de 2012. Condition numéro 1, les partenaires doivent éviter de s'enfermer dans leur langage respectif. Lors de la grève de 2012, on a pu voir l'élite politique au pouvoir imposer une décision, la hausse des frais de scolarité, aux jeunes qui n'ont pas été traités comme des partenaires égaux avec qui délibérer. Cette élite a imposé son langage gestionnaire de l'accès à une éducation universitaire vu comme un simple investissement personnel et rentable et a refusé la proposition du mouvement étudiant d'ouvrir le dialogue pour réfléchir au type de régime inégalitaire dans lequel s'inscrit cette éducation et aux conditions d'atteinte d'une plus grande justice sociale. Condition numéro 2, les partenaires ne renoncent pas à leur propre identité. Pour délibérer avec l'élite au pouvoir, on a imposé des conditions au mouvement étudiant qui revenaient à lui faire violence à son identité politique. Cette identité s'appuie sur l'existence d'une démocratie directe, mise en branle à travers des assemblées étudiantes locales, dotées de la pleine souveraineté, et dont les délégués sont dotés de mandats impératifs. Ce mode de fonctionnement délégatif fut pris à partie comme étant inefficace, coercitif, élitiste, et comme étant une négation du fonctionnement représentatif, jugé supérieur, où le représentant jouit d'une autonomie politique importante. Condition 3. Le dialogue ne doit pas viser à vaincre ou à dominer l'autre. Après leur avoir imposé la hausse des frais de scolarité, et ce de manière unilatérale, l'élite au pouvoir a refusé pendant 11 semaines le dialogue avec les associations étudiantes. Lorsqu'elle a fait des offres, elle est destinée à l'opinion publique qu'elle voulait séduire. Et ces offres, à chaque fois, constituaient des reculs importants pour le mouvement étudiant. De plus, les manifestations étudiantes ont été violemment réprimées par la police, qui fit 3400 arrestations, et par les tribunaux, qui ont fait pleuvoir des injonctions pour contrer les mandats de grève adoptés démocratiquement. Condition 4. Les partenaires ont besoin de savoir que leur voix comptera. L'espace public, où s'est jouée l'opposition entre les jeunes d'un côté et l'élite au pouvoir de l'autre, était résolument inégalitaire quant aux moyens pour le mouvement étudiant de se faire entendre, de se faire comprendre et de pouvoir espérer influencer de manière conséquente le processus décisionnel. À ces quatre conditions, j'ajoute une cinquième et une sixième condition de mon propre cru qui permettent qu'il y ait un véritable dialogue à mon sens. Condition 5, le dialogue nécessite une égalité réelle entre partenaires. Le cas de la grève de 2012 a opposé une génération montante, dépourvue des capitaux politiques, culturels, symboliques et économiques, face aux générations établies au sein de l'élite politique au pouvoir. Comment parvenir au dialogue face à tant d'inégalités structurelles et face au refus de concevoir les jeunes au sein du mouvement étudiant comme des acteurs politiques, égaux et légitimes? Et enfin, condition numéro 6, la délibération doit avoir lieu au sein d'un espace public inclusif. La couverture médiatique des manifestations étudiantes en tant que mode de participation au dialogue a contribué à déformer, voire à exclure le propos étudiant. Selon Chantal Franqueur, les étudiants et étudiantes ont dû livrer bataille contre les multiples moules journalistiques qui les emprisonnent, car leur mouvement, leur fonctionnement ne rentre pas dans ces formats. Dans le cas des manifestations, Franqueur nous dit que les formats journalistiques, définissant ce qu'est une nouvelle, ont pour effet d'attirer l'attention sur les coups d'éclat et moins sur les débats de fond. Donc, selon elle, à travers les multiples moules, notamment la quête de sources officielles haut placées, les journalistes respectent les hiérarchies de la société, les institutions, l'ordre, les valeurs dominantes. Pour Franqueur, cela explique pourquoi le mouvement étudiant est anormal et risque de le rester. Deuxième partie, une critique aristotélicienne du dialogue. Si la forêt s'inspire d'Aristote, par contre, la pensée aristotélicienne va plus loin pour penser le régime, où se déroule le dialogue. Selon Aristote, pour comprendre le régime, il faut savoir qui détient le pouvoir, un seul, une élite, le peuple, et la façon dont le pouvoir est exercé. Quand c'est une minorité d'argent qui détient le pouvoir et ferme l'accès aux magistratures dans un régime valorisant l'enrichissement privé, il parle alors d'un régime corrompu, l'oligarchie. Il précise que le régime oligarchique crée deux cités en lutte, qu'il ne faut pas confondre avec une seule cité où on trouve de multiples divisions. Le régime qu'Aristote décrit comme le plus stable est celui où les disparités de richesse sont les plus faibles, où l'élément moyen est le plus important et où il y a un accès large au pouvoir. La liberté des membres de cette république existe dans l'égale pratique de la politique, au sein d'une même communauté et dans la rotation des charges pour que tous puissent, alternativement, être gouvernants et gouvernés. Il n'y a donc pas de liberté et d'égalité sans une certaine égalité de richesse et de participation, sans une cité gouvernée pour produire des lois conformes au bien commun et éduquant ses membres à une pratique citoyenne active. Un disciple contemporain d'Aristote, qui récuserait le terme, Cornelius Castoriadis, a écrit que l'autonomie des individus, qui implique bien entendu leur capacité de se remettre en question eux-mêmes, a aussi et surtout comme contenu l'égale participation de tous au pouvoir, sans laquelle il n'y a évidemment pas de liberté, de même qu'il n'y a pas d'égalité sans liberté. Comment pourrais-je être libre, poursuit-il, si d'autres que moi décident ce qui me concerne et qu'à cette décision je ne puis prendre part? Castoriadis ajoute que la possibilité d'une pratique politique pleine et entière, pour tous et toutes, nécessite que le processus décisionnel soit réellement public. Il faut donc que le lieu où l'on délibère avec les autres soit un espace où l'on décide en commun et où l'information circule librement. Donc, il soit un espace public-public. Dans notre régime, cette sphère publique est privatisée, car elle est l'apanage des acteurs dominants et les décisions qui comptent sont prises dans les arcanes du pouvoir. Chez Aristote et Castoriadis, on retrouve un régime républicain et une pensée politique que l'on pourrait qualifier de radicalement démocratique, à des lieux du régime libéral et représentatif québécois et de la pensée libérale de Guy Laforêt. Le dialogue dont parle la forêt peut se caractériser par une approche typique du régime représentatif, où il y a une délibération rationnelle entre élites, selon une attitude posée, dans un langage qu'elles partagent, dans un espace public-privé, où certaines normes doivent être respectées. La population assiste de manière passive à cette délibération, dont elle reçoit les décisions d'en haut à travers les médias. Parfois, on demande à la population de trancher un différend entre les élites à l'aide de l'élection, où on lui est présenté un choix limité d'options entre quelques candidats cooptés à l'interne. Selon Anne-Marie Gingras, le concept de la sphère publique s'appuie bel et bien sur l'idéologie libérale, qui offre une vision plus consensuelle que conflictuelle de la société. Seulement, il y a un écart majeur entre le concept, voulant que cet espace intègre tous les intérêts et tous les acteurs, à la réalité, où l'on voit que cet espace est limité aux grands médias, qui couvrent l'actualité politique, qui nous disent quels événements et quels discours comptent, parce que justement couverts par les grands médias. De plus, Gingras avance qu'un nombre fort restreint d'acteurs sociaux ont accès aux médias, et que la presse, non contente de sélectionner, cadre de manière spécifique certaines questions et en ignore systématiquement d'autres. En effet, puisque nous vivons dans un système représentatif, les représentants, présents au sein des grands partis, sont le centre de la vie politique. Conséquemment, ils sont les acteurs politiques les plus sollicités en tant que source privilégiée par les grands médias. C'est dire, avec Anne-Marie Gingras, que certaines idées n'accèdent pas aux médias. Donc cet espace public, réellement public, au sens d'inclusif est manquant. Chez les penseurs libéraux, comme La Forêt, l'espace public se résume trop souvent à l'espace bourgeois dont parle Jürgen Habermas. Un espace où se déroule un dialogue entre des citoyens dotés de la compétence politique, dont l'opinion compte, qu'ils soient députés, journalistes, relationnistes, universitaires, dirigeants. Par exemple, si John Stuart Mill propose d'élargir le suffrage aux masses au 19e siècle, pour éviter toute forme de dérive, selon ses mots, il suggère d'octroyer plusieurs votes aux citoyens dotés de la compétence politique qui se déduit de leur occupation sociale plus élevée. Corollairement, on trouve aussi chez les penseurs libéraux une vision élitiste de la représentation qui recoupe la vision qu'en donnent Thomas Hobbes et Edmund Burke. Un représentant, en tant que centre de la vie politique, doté de la compétence politique, qui délibère et décide selon sa raison et son jugement et qui n'est lié par aucun mandat impératif, par ceux qui l'ont élu. Les conditions que La Forêt évoque pour un possible dialogue entre divers groupes ne se trouvent donc pas dans notre régime politique, à mon sens. En ajoutant les deux conditions supplémentaires que j'ai ajoutées, les possibilités m'apparaissent encore plus fermées. Pour qu'il y ait un dialogue réel entre des groupes qui ne se limitent pas à la délibération entre élites et que les conflits et les divisions du social ne soient pas étouffés, il doit y avoir une communauté d'égale participation, d'inclusion et de solidarité. Troisième partie, la manifestation comme participation au dialogue. Présentement, les inégalités d'accès aux ressources, de statut, de participation au pouvoir entre les générations établies, contrôlant les charges, et les jeunes rendent impensable pour ces derniers une plus grande participation. Or, sans une participation accrue qui ne se limite pas au vote, mais qui inclut aussi la manifestation, il est impensable de penser secouer l'ordre libéral. En effet, les changements viennent de pressions et de demandes populaires qui s'expriment par des moyens et dans des lieux qui ne sont pas conformes aux normes de l'espace public libéral. Je pense notamment à la manifestation, le moyen de lutte des groupes défavorisés. Mais la manifestation, en tant que moyen de promouvoir le changement social, est considérée comme un comportement politique déviant. Dans notre société dite pluraliste libérale, où l'on suppose une multiplicité d'intérêts équivalents en libre compétition sous l'arbitrage neutre de l'État. Selon cette narration, puisqu'il existe une plénitude de portes pour accéder à la sphère institutionnelle, il n'est pas nécessaire de recourir à des moyens d'action que l'on dit à haut potentiel de violence comme la manifestation, qui minerait, en plus, la libre circulation des consommateurs, des travailleurs et des producteurs. La rue ne serait pas un espace où l'on peut légitimement manifester et entraver le cours normal des choses. Il servirait à l'épanouissement des individus. Selon un avocat du bureau du procureur général du Québec, Patrice Claude, manifester sur la chaussée entrave la circulation, ce qui va à l'encontre de l'épanouissement personnel. Loin de favoriser le débat démocratique, ce moyen d'expression instaure plutôt un climat d'affrontement. Cette narration emprunte aux analyses platoniciennes de Gustave Le Bon, qui avançait dans la psychologie des foules en 1895 que la foule est irrationnelle et potentiellement criminelle. Les élites politiques des régimes représentatifs, et souvent les penseurs libéraux, ont gardé ce préjugé défavorable contre le moyen jugé anormal des exclus de se faire entendre, la manifestation. Suivant Francis Dupuy-Déry, on peut affirmer que la répression policière des manifestations en 2012 visait à refouler de l'espace public des comportements politiques et des acteurs sociaux jugés déviants selon les normes dominantes. D'ailleurs, malgré la mention de la liberté de réunion pacifique dans la Charte canadienne, selon l'état du droit constitutionnel canadien, la manifestation est un comportement qui est seulement toléré et même pacifique peut être déclaré illégal par la police. De plus, le modèle de l'acte fautif s'applique à la gestion des manifestations. C'est-à-dire qu'elles sont tolérées tant qu'un acte criminel n'est pas commis par une seule personne, car dès lors, l'ensemble de la manifestation est déclaré illégal et les manifestants doivent se disperser. Cet encadrement sévère de la manifestation, toléré par l'élite politique et les grands médias, pose un problème, car selon Patrick Forget, les tenants de la mise à l'écart de la manifestation oublient ce qui est à la base justement des inégalités sociales, la distribution inéquitable des ressources. Or, poursuit-il, la manifestation est le seul moyen d'action pacifique qui permette à la population de s'approprier les espaces publics, presque exclusivement réservés à la production et à la consommation de biens, et partant à l'enrichissement de la classe propriétaire. De plus, en une époque où le bonheur privé et l'absence de solidarité triomphent, justifiant cela par un discours méritocratique libéral dans un contexte de retrait de l'État-providence et d'apparente fin de l'histoire, la manifestation ramène les gens dans les lieux publics où ils prennent contact, ils tissent des liens de proximité et vivent ensemble des émotions. Elle est donc source d'une nouvelle solidarité. Prenant conscience les uns des autres et de leur union dans une même cause, la manifestation révèle aussi aux groupes défavorisés la force de leur nombre, force qui contribue à rendre légitime leur cause. Cela peut avoir un effet d'entraînement, comme en 2012, où on a vu les manifestations de casseroles rejoindre les étudiants dans la rue. En repoussant la session d'hiver à la fin du mois d'août, comme le voulait le projet de loi 12 mis en place par le gouvernement libéral, c'est cette parole étudiante qui a été tue, alors même qu'elle commençait à peser dans l'espace public. Voilà l'effet le plus pervers de cette loi. Après avoir stigmatisé le mouvement étudiant comme violent, le gouvernement a tué la voix étudiante dans la rue. Conclusion, des solutions possibles. Nous sommes ici pour parler de dialogue et je m'évertue à montrer que la seule délibération publique qui soit possible est entre élites, ce qui laisse présager un certain blocage de notre société. Et je ne suis pas en mesure aujourd'hui de fournir le mode d'emploi pour que les jeunes se sentent intégrés au régime politique québécois et que l'élite politique leur laisse l'espace nécessaire pour renégocier leur place au sein d'un ordre inégalitaire qui attribue et justifie la position de chacun. C'est dans un tel espace, réellement public, que peut se déployer la mobilisation des groupes défavorisés comme les jeunes. Plusieurs institutions contribuent à ce que l'espace public soit un espace privé, d'où sont exclus les discours et les comportements jugés déviants. L'oligopole médiatique limite ce qui est reflété du réel pour en finir offrir une image partielle et conforme à l'ordre établi. Le système partisan, tout aussi oligopolistique, favorise les grands partis qui sont avantagés par le mode de scrutin et qui contraignent les députés à suivre la ligne de parti. Enfin, les institutions répressives de l'État, la police et les tribunaux, contrôlent toute occupation de l'espace public. La police réglementant sévèrement toute entrave à la liberté de circulation et de jouissance des biens, surtout ceux qui en sont responsables ont un statut social inférieur. Chez les juges, on observe une continuité quant à leurs préjugés défavorables envers toute action collective extra-institutionnelle qui pourrait nuire à la préservation de la paix et de l'ordre public. Puisqu'on ne peut agir directement sur la magistrature pour diverses causes, notamment l'indépendance importante dont elles jouissent, la formation juridique davantage conservatrice, les caractéristiques sociopolitiques supérieures des juges et la continuité institutionnelle des tribunaux, l'élite politique, en favorisant un encadrement sévère des manifestations, envoie un signal clair aux juges et aux policiers pour ce qui est de l'encadrement sévère et de la préservation à tout prix de la paix et de l'ordre public. Donc, de modifier le type de représentation que nous avons peut entraîner des changements imprévus. Selon Régent Pelletier, à l'Assemblée nationale, on trouve une élite politique, composée d'hommes professionnels, d'âge moyen, qui laisse peu de place aux femmes, aux jeunes, aux personnes âgées et à ceux ayant d'autres types d'occupations. Après l'élection de 2012, on observe que c'est toujours le groupe des 35-64 ans, où dominent les hommes, qui représente 88% de la députation, alors qu'elle compose à peu près 40% de la population, qui est dominante. Le groupe âgé des 34 ans et moins, donc qui recoupe l'âge grosso modo de la population derrière le mouvement étudiant, et compose 4% de la députation contre 22% de la population. Suivant la politologue américaine James Manbridge, on peut dire que le partage d'une expérience commune entre des représentants qui pourraient être jeunes et un électorat jeune pourrait permettre peut-être une adéquation plus adéquate entre les intérêts minoritaires de la jeunesse, tout en bonifiant la qualité et la diversité des débats en chambre, permettant de voir se répercuter dans les grands médias un ensemble de valeurs et d'idées auparavant absent du dialogue public. Dans une chambre reflétant davantage le poids des jeunes dans la société, on peut espérer voir des positions politiques plus conciliantes face à l'expression politique du mouvement étudiant à travers les manifestations. De favoriser une telle représentation qu'elle qualifie de descriptive est importante dans un contexte où deux groupes, ici les jeunes et l'élite politique au pouvoir, se méfient l'un de l'autre et où le groupe défavorisé subit un déni historique de sa compétence politique. Toutefois, avec le mode de scrutin que nous avons, qui favorise indûment les grands partis, dotés de plus de ressources, on ne peut voir espérer une diversité de voix apparaître. Dans ce cas, nous ne sommes pas plus avancés en ce qui a trait à l'ouverture des débats à des opinions ou des valeurs minoritaires pouvant bouleverser le statu quo. De plus, avec la ligne de parti qui écrase la liberté des représentants, cela étouffe aussi la multiplicité des opinions, des intérêts défendus en chambre. Ainsi, un mode de scrutin plus proportionnel, où l'on contrôle et diminue sévèrement les dépenses permises, où l'on peut imposer des quotas pour assurer une représentation des jeunes, mais aussi des femmes et des minorités culturelles, auxquelles on ajoute la limitation du nombre et de la durée des mandats des élus, et la libération légale du député du contrôle de son parti, peuvent apporter des dividendes délibératifs. C'est ce qui est proposé ici. Ce qui est proposé ici n'est pas une panacée, mais pourrait contribuer à exposer les divisions sociales présentes dans la société québécoise qui sont évacuées présentement à l'espace public, en apportant au Parlement des intérêts qui sont présentement absents. L'enjeu en est un d'égalité et de progrès collectif. D'abord, comme l'a écrit John Stuart Mill, dans une démocratie réellement égalitaire, tout groupe, quel qu'il soit, serait représenté, non pas disproportionnellement, mais proportionnellement à son importance. Si ce n'est pas le cas, alors nous n'avons pas un gouvernement égalitaire, mais un gouvernement d'inégalité et de privilèges, c'est-à-dire, selon lui, qu'une partie du peuple règne sur le reste. Puis, toujours selon Stuart Mill, un gouvernement devra s'assurer de préserver un point d'appui pour les résistances individuelles aux orientations du pouvoir en place. Pour lui, l'absence d'un tel point d'appui explique que presque toutes les sociétés se sont soit décomposées, soit interrompues dans leur développement social. Un tel point d'appui voudrait dire ici une tolérance de la part de l'élite politique envers un mode de participation au dialogue public qu'elle ne contrôle pas et dont les conséquences sur son pouvoir sont imprévues, la manifestation. En conclusion, une des avancées de la science politique avec Machiavel fut de comprendre l'inévitable division du social et les effets positifs que cela pouvait avoir sur la cité. C'est la confrontation ou le dialogue avec l'autre qui contribue au progrès social. On peut donc avancer que notre apparent consensus libéral constitue un recul puisque nous refusons d'être confrontés à l'autre et ses moyens d'action, ici les jeunes et la manifestation. Merci.
Merci beaucoup.